ça nous enseigne que la reconnaissance et l'adoration sont plus rares que la foi. Les dix qui ont été guéris ont tous eu la foi, ils viennent, dit le prume, souillés par la lèpre, parce que la lèpre était une impureté dans la Bible, et puis, du reste, dans la Bible d'Arbi, jamais qui dit qu'un lépreux est guéri. Il dit toujours purifié de sa lèpre. Même dans l'Ancien Testament, la petite fille chez Naaman, purifié de sa lèpre, parce que c'est une image du péché. Alors, le Seigneur est là, il lui demande d'avoir pitié d'eux. Le Seigneur dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur, les dix sont guéris. Il n'y en a rien qu'un qui revient pour rendre grâce à Dieu, au Seigneur Jésus, le remercier, il se jette à ses pieds, la place où on adore, et lui rend hommage. La personne qu'on adore aussi. Parce qu'on adore Dieu, mais on adore aussi le Seigneur Jésus, pas le Saint-Esprit, par exemple. Dieu le Père et le Fils. Mais normalement, le Père au nom du Fils. Alors, lui, il a été reconnaissant, puis le Seigneur a souligné, c'était un Samaritain, un étranger. Et le Seigneur était surpris, on voit les questions qu'il pose, les neuf autres, où sont-ils? Ils n'ont pas été guéris. Comme s'il était surpris, mais il savait. Mais, comme j'ai dit, la reconnaissance et l'adoration sont plus rares que la foi. Puisqu'il y en a dix de guéris, puis rien qu'un qui revient pour rendre grâce. C'est frappant, ça. Il faut presque poser la question, est-ce que c'est dans le même pourcentage que les chrétiens comprennent ce que c'est que l'adoration et la reconnaissance? Donc, on adore Dieu au pied du Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même. On peut l'adorer devant la croix. On a même chanté des cantiques, on en a dans le chant de victoire, des cantiques qui nous invitent à aller au pied de la croix. Comme les trois maris qui étaient au pied de la croix. On doit donner ça à ces trois, à ces femmes. Les femmes ont été les dernières au pied de la croix, puis les premières au sépulcre, le dimanche matin, premier jour de la résurrection. Quelque chose, ça, hein? Quelque chose, ça. Le Seigneur n'a pas donné un ministère public aux femmes, il n'y avait pas de femmes parmi les douze, mais la Bible nous montre quand même comment ces femmes étaient attachées au Seigneur et la récompense qu'elles auront aussi. Les dernières au pied de la croix pour regarder le Seigneur. Nous aussi, on doit être au pied de la croix, un esprit au pied de la croix. C'est là qu'on adore aussi le Seigneur Jésus. Un esprit au pied de la croix pour l'adorer. Et pour se rappeler de ses souffrances, de la moquerie, comme on l'a dit, le comble de la méchanceté de l'homme qui a voulu, pour ainsi dire, se débarrasser de son Créateur. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifie, crucifie-le. On a dit que le Seigneur Jésus avait possédé deux choses sur cette terre, une crèche et une croix. Pas beaucoup. Ainsi, nous sommes en esprit au pied de la croix. Et là, nous le contemplons dans ses souffrances, dans son ignominie, ça veut dire une grande honte, sur la croix. Comme le chant d'un cantique, sur la croix, sur la croix. Ensuite, il y a un autre endroit où on est invité à adorer. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, etc. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, etc. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux, on a ce verbe approcher. Approchons-nous. On est invité de s'approcher. Parce que dans l'Ancien Testament, on devait se tenir éloigné de Dieu quand il a donné la loi. Il se tenait éloigné, j'ai eu peur. Parce que quand Dieu parle, c'est plus fort que le tonnerre. Au Sinaï, ils ont eu peur de Dieu. Et un jour, les hommes vont avoir peur quand on lit dans l'Apocalypse. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, puis aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. La colère de celui qui est sur le trône. Les hommes vont avoir peur de Dieu. Et souvent dit, même dans les enterrements, il y a des gens qui n'ont pas peur, parce qu'ils n'en savent pas assez. Puis il y en a qui ont peur, mais ils n'en savent pas assez pour être sauvés. Puis il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir peur, ceux qui sont sauvés. On n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Quand on sait que le jugement que je mérite, chacun qui est sauvé peut dire ça, je mérite, est tombé sur la personne du Seigneur Jésus. Mais ce sauveur, il n'est pas resté mort. Savez-vous, j'ai appris quelque chose dernièrement, tout dernièrement, que je ne savais pas. Vous savez que en français, et dans les langues latines, ça veut dire l'espagnol, l'italien, on dit le dimanche, le premier jour de la semaine, est tiré du nom du Seigneur, dimanche. Ça vient de Dominicus, Dominica, qui veut dire Seigneur, le jour du Seigneur, dimanche. Tandis que dans les langues comme l'anglais et l'allemand, les langues germaniques ou anglo-saxonnes aussi, on est resté avec le jour du soleil, Sunday, puis Sonntag en allemand. Moi j'ai appris l'allemand quand j'étais jeune garçon, j'étais les jours de la semaine en allemand, c'est Sonntag. Puis dans les pays du nord de l'Europe, c'est pratiquement pareil, le suédois, le norvégien, le danois, finlandais, c'est presque toute la même, c'est presque la même chose. Sonntag, ça veut dire jour du soleil, ça, comme Sunday. Mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps qu'en russe, on dit dimanche, jour de la résurrection. Maintenant, je vais téléphoner un jour, je vais pas y penser, là, à un professeur de russe à l'université Laval pour savoir si c'est vrai. Et ce serait frappant qu'en russe, on dirait dimanche, un mot qui équivaudrait à jour de la résurrection. Et c'est ça. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Nous, on ne célèbre pas les fêtes du calendrier liturgique. Noël, Pâques. Parce que pour nous, c'est Noël et Pâques tous les dimanches, dans un sens. On n'emploie pas ces mots. Parce que quand on est réunis le dimanche matin autour de la table et des emblèmes, on a le pain qui nous parle de quoi? Ben, de son incarnation. Donc, de Noël. Si vous voulez, on ne veut pas dire qu'on fête Noël, mais c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais on se rappelle de l'incarnation, que le Seigneur Jésus est né comme un homme, lui le Fils éternel de Dieu. On se rappelle d'incarnation, on se rappelle de sa passion, de sa crucifixion, mais aussi de sa résurrection, parce que chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez, pas vous renouveler, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il est ressuscité. Donc, on se rappelle aussi de la résurrection. On célèbre la résurrection aussi du Seigneur le dimanche, qui est justement le dimanche, c'est le jour de la résurrection le dimanche. C'est un jour à part des autres. Pas comme le sabbat de l'Ancien Testament. Sabbat, ça veut dire repos, cessation de travail. C'est pas la même chose que le dimanche. Le sabbat, c'est toujours le sabbat. En italien, samedi, on dit sabato. Parce que c'est le jour du repos. Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. On se rappelle de la résurrection du Christ. Sa mort, on annonce sa mort le jour de sa résurrection. Et là, il est ressuscité. Et il est maintenant dans le sanctuaire. Dans l'épître aux Hébreux, on devrait dire d'abord dans l'épître aux Romains. L'apôtre Paul nous entraîne, pour ainsi dire, dans une cour de justice. Et d'abord, il y a une mise en accusation. Le pécheur est accusé. Et il peut être justifié. Face à la justice de Dieu, l'homme est coupable. Tandis que dans l'épître aux Hébreux, le point de vue est différent. Le croyant veut être conduit dans le sanctuaire. Non pas un sanctuaire terrestre, mais au sanctuaire céleste. Et pour aller là, il faut être purifié. Nous sommes souillés ça veut dire sale à cause du péché, et il nous montre comment dans l'Épître aux Hébreux on peut être purifié, nettoyé, un autre mot qui m'échappe en ce moment, le blanc de mémoire, purifié et en tous les cas, purifié de nos péchés, ça va m'en revenir. Ainsi, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, qui n'est pas nommé, veut nous conduire dans le sanctuaire céleste. Et il veut qu'on soit purifié. Et maintenant, quand on est converti, qu'on est purifié, sanctifié, c'est le verbe que je cherchais, bien, on peut pénétrer par la foi dans le sanctuaire céleste. Ou par la foi, on voit le Seigneur Jésus assis. Ça veut dire, son œuvre est accomplie. Et on peut l'adorer. Et aussi, considérer par la foi les résultats de son œuvre. Ça veut dire la position que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ah, comme on dit dans les Éphésiens, assis dans les lieux célestes en Christ. Ça m'est déjà arrivé dans mes visites avec des inconvertis. Des fois, les gens nous disent, mais êtes-vous vraiment sûr d'être sauvé? Êtes-vous vraiment certain? Ben, j'ai dit, savez-vous, je suis aussi sûr si j'étais déjà rendu. Ils restent pas mal surpris, les gens, quand on leur dit. Je suis aussi sûr que si j'étais déjà là. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est comme si on était là. C'est comme si on était là. Tant qu'à notre position dans le Seigneur Jésus. Alors, c'est toute une position. On rend grâce à Dieu pas parce qu'on a accompli quelque chose de grand nous-mêmes, mais parce que tout est grâce. Si on est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, pour employer le langage de Paul aux Éphésiens, c'est à cause du Seigneur Jésus, on ne mérite rien du tout. Alors on est confondu, on est humilié de penser combien on est béni de toutes les bénédictions du ciel, de tous les trésors du ciel. Ça me fait penser, le frère Boyd Nicholson, qui est un bon prédicateur, nous a raconté une fois qu'il était dans un magasin, et puis il payait à la caisse. Puis il y avait juste avant lui une dame, puis la vendeuse, la caissière, lui a offert un billet de loterie. Puis lui, il dit à la caissière et à la dame qui achetait le billet de loterie, il dit, j'ai pas besoin d'en prendre, je suis immensément riche. Évidemment, quelqu'un qui dit ça, d'un air assez sérieux, un gentleman, le monde, il regarde, il dit, moi, je viens de connaître, je suis très très riche moi-même, j'ai pas besoin de ça. Alors, les gens sont curieux, ça pique la curiosité, puis il a pas dit tout de suite, il les a laissés un peu sur leur faim, puis ils se sont renseignés, puis là, il leur a annoncé l'Évangile. Comment est-ce qu'ils pourraient aussi être millionnaires, dans un sens spirituel, en connaissant le Seigneur Jésus? On est plus riches que les plus riches de cette terre, parce que les richesses du monde, elles satisfont pas le cœur. On a demandé à Rockefeller, à New York, une fois, ça prend combien d'argent? Il a répondu du tac au tac, toujours un peu plus que ce qu'on a. Nous, on n'a jamais assez. Tandis que quand on a les richesses, les trésors du ciel qui sont à nous, bien, c'est quelque chose. On ne méprise pas les choses matérielles. Tant qu'on est sur la terre, on ne peut pas cracher contre l'argent. On en a besoin. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. On ne parle pas contre l'argent, il y a des choses matérielles qui sont légitimes, mais c'est pour dire que les bénédictions du ciel sont éternelles et surpassent tous les biens de ce monde. Alors, quand on est dans l'adoration, on considère celui qui est assis à la droite de Dieu, son œuvre est terminée, et on considère aussi les résultats de son œuvre pour tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, en lui. Ça, c'est là qu'on l'adore. On l'adore dans l'Église, on l'adore en esprit, on l'adore à ses pieds, on l'adore au pied de la croix, et on l'adore dans le sanctuaire céleste, où on doit pénétrer. On est réunis sur la terre, mais vraiment, on adore dans le ciel. Notre adoration doit monter plus haut que le plafond, dans le ciel, vers le Seigneur Jésus, en communion avec tous les croyants qui véritablement le connaissent, et aussi lui rendent hommage. Donc, c'est là qu'on adore. Maintenant, qu'est-ce que c'est au fond que l'adoration, en plus de l'illustration qu'on a donnée ce matin, de celui qui a été en train de se noyer, puisqu'on a expliqué. Mais j'ai essayé de résumer l'adoration d'une façon simple, qu'on puisse s'en rappeler, par trois lettres de l'alphabet, A, B, C. C'est pas compliqué, ça, A, B, C. C'est la première chose qu'on apprend à l'école, c'est A, B, C. A, apporter quelque chose. Il y a des endroits, certains milieux, certaines dénominations, ils appellent le culte une prédication. Ils vont, soi-disant, adorer Dieu pour un culte, mais c'est un pasteur qui donne un sermon. Ça, c'est l'adoration s'adresse à Dieu. On apporte quelque chose à Dieu. C'est pas adorer Dieu que d'aller écouter une prédication. Et vous, aller dans un endroit où on prêche l'Évangile, c'est bien, mais il y a des endroits où on prêche l'Évangile où c'est pas l'adoration. On prêche l'Évangile, gloire à Dieu, tant mieux. Ce serait même bon qu'il y en ait encore plus où on prêche l'Évangile, les endroits, dans la ville de Montréal. Mais, et partout dans le monde même. Mais, aller écouter une prédication, quand on annonce la parole, que ce soit l'Évangile aux inconvertis, ou la parole de Dieu aux chrétiens pour les édifier, on s'adresse aux frères et sœurs. Je m'adresse à vous ce soir. Je partage ce que j'ai appris de la parole de Dieu à vous. Tandis que quand on adore, on s'adresse en haut à Dieu. On apporte quelque chose à Dieu. On a résumé qu'à la réunion d'édification, on vient apprendre, on vient chercher. À la réunion de prière, on vient demander. Mais au repas du Seigneur, on vient apporter. Devant tout ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce qu'on voudrait demander ? Pas pour dire « Seigneur, bénis-nous ». Il nous dit qu'on est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors on vient apporter quelque chose. Et si vous vous rappelez, à quelques reprises dans l'Ancien Testament, il est écrit de ne pas se présenter devant l'Éternel ou devant Dieu les mains vides. C'était défendu de venir devant Dieu les mains vides. Ça veut dire sans rien à apporter. On devrait tous avoir quelque chose à apporter. Et dans Deutéronome 26, où on voit le culte que Dieu voulait recevoir, il disait de garder dans une corbeille les prémices pour les apporter. Dieu aime qu'on lui apporte quelque chose de louange, d'adoration. Alors on doit avoir, chacun de nous, les sœurs aussi bien que les frères, quelque chose à apporter à Dieu, de reconnaissance, de remerciement, de louange, d'adoration pour son Fils, pour son amour, pour sa grâce, pour tout ce qu'il est, pas seulement ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en lui-même. A, apporter quelque chose. B, on va dire avec B, bénir Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Bénir, ça vient du latin, le verbe bénir. Ça veut dire dire du bien. C'est pas compliqué. Bénir. On dit du bien de lui. On vient le bénir. Dire du bien de lui. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Notre frère nous l'a lu ce matin. C'est bien ça, hein? Psaume 103, je pense, qui a lu. On lit dans les psaumes à plusieurs reprises, dans tous les croyants de tous les âges, on bénit Dieu. Hein? L'apôtre Paul, comment c'est là, il bénit Dieu, le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on bénit Dieu dans le sens que on dit du bien de lui. On lui apporte notre action de grâce, notre reconnaissance. Comme le psalmiste au psaume 103 que je viens de citer, c'est pas « mon âme bénit l'Éternel », il y a « mon âme, virgule, bénit l'Éternel ». C'est « béni et nièce », parce que c'est pas la troisième personne où on dit « mon âme bénit l'Éternel », c'est une invitation que le psalmiste s'adresse à lui-même de bénir Dieu. Comme si on se parlait à nous-mêmes, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On bénit Dieu pour ce qu'il est, on dit du bien de lui, dans sa présence. B, bénir Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Troisièmement, c'est contempler sa personne. Dans la Bible, on voit à plusieurs reprises que l'adoration, c'est aussi le silence, où on le contemple, où on regarde sa personne, contempler sa personne. Contempler, c'est plus que qu'un coup d'œil. On va lire dans le psaume 63 pour prendre un petit peu, là c'est pas long. Psaume 63. Verset 1. Psaume de David lorsqu'il était dans la caverne dans le désert de Juda, pardon. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. C'était avant qu'il construise le temple, puisque c'est David qui l'a dit. Contempler Dieu, contempler quelque chose, c'est plus que de regarder en passant. Quand je conduis ma voiture, je regarde où je vais, j'ai pas le temps de contempler les affaires, autrement on va avoir un accident. Hein? On peut contempler, c'est s'arrêter et se concentrer sur un objet quelconque. Contempler Dieu, c'est s'arrêter. Ça demande de la volonté. Pas facile, ça. Contempler Dieu, c'est s'arrêter en silence et contempler. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose, j'espère que vous serez d'accord avec ce que je vais dire. Dans des fois au repas du Seigneur, il y a des silences. Peut-être pas ici, je ne sais pas. Ce matin, il y avait une bonne participation. Mais il y a des fois des assemblées, il y a des grands silences qui sont vraiment pénibles quand les frères n'ont rien à dire. C'est pas bon, ça. Mais il y a aussi des moments de silence appropriés où, dans le silence, dans nos cœurs, on apporte à Dieu la louange et la reconnaissance. Parce qu'on voit dans la Bible, Dieu est adoré par le silence. La louange, dans la version d'Arby, c'est pas la même chose dans la version seconde, il dit, la louange au Dieu t'atteint dans le silence. C'est pour ça que même avant les réunions, on devrait avoir un moment de silence. Moi, j'aime pas aller dans une assemblée où est-ce que, tu sais, il y a un bruit, puis ça jase, on se penserait à une foire, et puis tout à coup, un frère vient en avant, puis il demande un cantique, là, puis... C'est comme pour amener le silence. C'est un manque de respect, un manque de révérence. On doit avoir un moment de silence. Et pendant les réunions, le culte en particulier, l'adoration, des moments de foi de silence qui sont à propos où on médite et on contemple le Seigneur. Quand Dieu nous garde dans nos pensées, parce que c'est facile dans nos pensées de s'envoler ailleurs. Un grand prédicateur a dit une fois, il y a beaucoup de rôtis qui ont été cuits pendant le culte. Des dames qui ont mis leurs rôtis avant de partir au feu, puis qui ont peur qu'ils brûlent. Puis ils pensent à ça. C'est pas mieux. Les dames, nous-mêmes, on peut être distraits. C'est tellement facile d'être distrait. Puis le diable est là, lui aussi. Il veut nous distraire. Ça demande la concentration, ça demande la volonté pour contempler quelque chose, un objet, pour arrêter de fixer nos pensées sur un objet quelconque. Et combien plus sur le Seigneur, parce que le diable il veut pas, il est là lui, puis il veut nous distraire, puis on est si facilement distrait. Alors, vous rappelez de cela, l'adoration, apporter quelque chose, c'est pas même lire beaucoup de passages, faire des discours comme aujourd'hui à certaines assemblées qui ont changé le repas du Seigneur et l'adoration pour un partage, ou c'est un partage général, puis tout le monde dit une sorte d'affaires. Pas nécessairement fausses, pas nécessairement mal, mais qui ne sont pas à propos dans l'adoration. Il y a des choses qu'on peut partager avec nos frères et sœurs, puis c'est bon d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager des fois en privé aussi. Mais dans l'adoration, on apporte la louange, l'adoration, la reconnaissance, les actions de grâce à Dieu. B, le bénir Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C, contempler sa personne. Alors j'espère que ces quelques considérations vous auront apporté quelque chose. Je vous remercie pour votre attention, demandant au Seigneur de bénir sa parole surtout. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous te rendons grâce, encore une fois, ensemble, pour le don du Seigneur Jésus, le don qui surpasse tous les autres. C'est toi qui donnes à tous la vie et la respiration et toutes choses, qui nous donnes encore qui nous est nécessaire pour la vie présente, mais tu nous as donné ton Fils, ton don suprême, celui qui s'est lui-même donné volontairement pour nous. Te remercions de ce que tu nous as fait comprendre par ton esprit, opérant dans nos cœurs et nos consciences que nous avions besoin de lui. Et nous te remercions pour ta grâce envers chacun de nous personnellement. Te demandons de bénir le témoignage ici même à Montréal, dans cette grande ville où il y a tant de besoins, tant d'âmes qui se perdent. Bénis l'assemblée ici, notre Dieu, et que les chrétiens puissent voir d'autres sauvés. Merci pour ceux qui ont été sauvés ces derniers mois. Dirige-nous chacun et fais que nous puissions être utiles et te servir, te glorifier dans notre vie. Et aussi apprendre à mieux t'apporter la louange et la reconnaissance dont tu es justement digne. Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Bénis ceux qui étaient absents, fais-leur du bien. Garde-nous pendant cette semaine dans nos activités. Et nous remettons tout entre tes bonnes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.